Thème du jour, c'est Christ, simple prophète, avec un point d'interrogation bien sûr. C'est une question qui se pose puisque, vous savez, nous essayons de parcourir les thèmes importants de l'islam. Et en effet, pour l'islam, Jésus est un prophète, il est même le Messie. J'y reviendrai quelque peu. Mais on va surtout s'intéresser à qui est Jésus pour nous. Et voici quelques textes bibliques pour illustrer mon propos. D'abord, le premier verset du premier chapitre de l'Évangile selon Marc. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Puis toujours dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 8, à partir du verset 27. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe, et en chemin, il leur posa cette question. « Les gens, qui disent-ils que je suis ?» Ils dirent « Jean-Baptiste », d'autres « Élie », d'autres « l'un des prophètes ». « Mais vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répond « Tu es le Christ. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire à personne ce qui le concernait. Puis, dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. » Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu de Dieu. Et enfin, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1, à partir du verset 20. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Amen. Jésus serait-il un simple prophète? Voici cette question qui nous réunit ce matin. En réalité, la question d'identité de Jésus est, depuis le début du christianisme, au cœur de toutes les discussions théologiques. Et c'est une question qui a agité les premiers conciles. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire sur les conciles œcuméniques qui ont lieu jusqu'au 8e siècle, qui n'ont cessé de débattre de qui était Jésus. Est-ce qu'il a été procédé du Père? Est-ce qu'il a été engendré, créé? Et quelle est sa nature? Alors la position officielle de l'Église, encore aujourd'hui, qui a été celle des débuts de l'Église, c'est qu'il est à la fois pleinement humain et pleinement divin. Donc, et d'ailleurs ces débats qui ont agité, quand je dis agité, c'était vraiment agité, parce qu'il paraît que les évêques se donner des quelques coups de poing au passage, parce que les discussions étaient profondément fortes et musclées. Mais bon, en tout cas, ces dogmes, entre guillemets, qui ont été définis dans ces premiers siècles du christianisme, eh bien, même au temps de la Réforme, ils n'ont pas été remis en cause. Pourtant, je voudrais me focaliser sur un petit groupe d'hérétiques. Alors, vous le savez, au début, les chrétiens faisaient partie du judaïsme, et ça, tout ça a explosé en 70 après Jésus-Christ, au moment où le temple de Jérusalem a été définitivement rasé par les Romains, et où les Juifs ont été exclus de Jérusalem. À ce moment-là, les Juifs et les chrétiens vont se séparer. Mais il y a bien des différents types déjà, dès le début de l'Église, de chrétiens. Alors il y a les pagano-chrétiens, c'est-à-dire ceux qui viennent du paganisme, qui n'étaient pas juifs avant. Et puis il y a les judéo-chrétiens. Et là, les débats sont assez vifs. Je voudrais me focaliser un peu sur ces judéo-chrétiens. Alors, il y en a toute une partie qui vont rentrer dans l'orthodoxie. Ce sont ceux qui apparaissent, entre autres, dans le Nouveau Testament, vous savez, dans les débats entre Paul et puis les gens de Jérusalem pour savoir s'il faut continuer, une fois qu'on est chrétien, à pratiquer les rites du judaïsme. Bon, petit à petit, tout cela va se mettre en place et puis ces groupes de judéo-chrétiens, les nazoréens, bon, vont peu à peu se dissoudre et arriver à s'intégrer aux autres chrétiens. Mais il y a d'autres judéo-chrétiens qu'on appelle alors les Ébionites ou les Elkassaïtes, enfin bon, peu importe leur nom. En fait, non seulement ils veulent garder la loi, les rites juifs, mais en plus ils ne reconnaissent pas la divinité du Christ. Alors ces judéo-chrétiens vont être exclus, comme d'autres groupes d'ailleurs, mais ils vont être exclus en fait de l'Église qui peu à peu prend forme, de cette Église de Rome. Ils vont être exclus et ils vont devoir s'en aller, émigrer. Ils vont conserver les rites du judaïsme et ils vont continuer à considérer le Christ comme étant en effet le Messie, un prophète, et ils entendent son message, mais ils ne voient en lui qu'un être humain. Ces judéo-chrétiens, ils vont s'exiler, ils vont être envoyés, et ils vont arriver dans la péninsule arabique. Je vous dis tout ça parce que, en fait, l'accueil de ces dissidents se fait sur les territoires, en fait, où va se développer plus tard l'islam. Et on peut comprendre pourquoi, finalement, dans l'islam, il y a une telle importance de Jésus, qui est reconnu comme prophète. Toute l'histoire de sa famille tient la sourate 3. Vous savez, les sourates, c'est par ordre décroissant, donc la 3, elle est encore très grande, très grande. Il y a une sourate sur Marie. L'histoire de Jésus dans le Coran prend une grande place. Et on entend bien que probablement l'islam s'est développé parmi ces sectes, si l'on peut les appeler ainsi, judéo-chrétiennes, qui étaient encore présentes au début de l'islam dans la péninsule arabique. D'ailleurs, pour dire, en fait, ces sectes vont complètement disparaître après, elles vont se fondre dans l'islam. Donc, vous voyez, finalement, on peut comprendre aussi la place de Jésus dans l'islam. Mais après ce bref éclairage historique, il convient tout de même d'essayer de voir qui est Jésus pour nous, aujourd'hui, chrétiens du XXIe siècle. Alors, pour cela, je pourrais m'appuyer sur les dogmes de ces magnifiques conciles. Je vous avoue que, quand j'étais étudiante en théologie, j'avais un peu de mal à comprendre certains de ces dogmes. Donc, je vais les laisser de côté, parce que je ne pense pas que je vous les expliquerai bien. Je risquerais de ne pas... J'ai pas tout compris, d'ailleurs, mais enfin, bon, j'ai quand même compris quelque chose. Mais en tout cas, ce qui m'importe personnellement, c'est de retrouver dans les Écritures qui est Jésus, dans les Évangiles et aussi chez Paul, parce que Paul nous dit beaucoup de choses sur Jésus, bien qu'il ne rapporte pratiquement aucune parole de Jésus. Ça, c'est tout de même intéressant aussi, mais bon, c'est pour une autre prédication, ça. Mais dans la Bible, justement, dans le Nouveau Testament, les choses se compliquent. Elle se complique parce qu'à mon avis, il n'y a pas une réponse univoque qui nous dit « Jésus est Dieu, Jésus est Fils de Dieu, Jésus est prophète, Jésus est Messie, et qu'est-ce que ça signifie être Messie, etc., etc., être prophète ?» Donc, on voit que la question, y compris dans les Écritures, reste ouverte. D'ailleurs, selon les Évangiles, la christologie, c'est-à-dire que la manière dont on appréhende le Christ, n'est pas tout à fait la même. Vous avez entendu le début de l'évangile de Marc nous dit Jésus-Christ, fils de Dieu. C'est déjà pas mal, parce que Jésus, ça veut dire Dieu sauve, Christ, c'est le Messie, c'est le même mot, l'un en grec, l'autre en hébreu, et fils de Dieu. C'est déjà important. Mais chez Jean, si on fait attention un peu, on peut presque dire que Jésus est Dieu. Lorsqu'il commence son évangile par ce magnifique prologue, lorsqu'il dit « Et la parole est devenue chair », La parole, ce n'est ni plus ni moins que Dieu. Et cette parole qui prend chair, eh bien, c'est le Christ. On fait donc une christologie, ce qu'on appelle chez Jean une haute christologie. Le caractère divin du Christ est affirmé dès le début. Parce que lorsqu'on dit fils de Dieu, eh bien, ce n'est pas forcément le caractère divin qui est mis en avant, parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Et ça, dès la Bible hébraïque, on peut être appelé fils de Dieu ou fils de l'homme. D'ailleurs, il est appelé aussi ainsi Jésus dans les évangiles. Donc on voit bien que, eh bien, probablement que c'est à chacun et à chacune d'entre nous, eh bien, d'essayer de savoir qui il est pour nous. Alors, je vais procéder un peu crescendo. On va prendre le niveau, le plus bas, je ne sais pas, j'aime pas ce mot, bref. On va dire que Jésus est prophète. Eh bien oui, Jésus est prophète. D'ailleurs, vous l'avez entendu dans le dialogue entre les disciples et Jésus, beaucoup de gens disent en effet, Jésus est prophète. Eh bien, c'est déjà pas si mal, parce que tout le monde n'est pas prophète. Et puis, les prophètes, eh bien, après tout, ça ne s'oppose pas à ce que nous dit Jean. Les prophètes, c'est les porte-parole de Dieu. Les prophètes, ils vivent et ils dispensent tout ce que Dieu nous enseigne. Et ils sont là également pour nous montrer, par leur vie, eh bien, comment entendre et répondre au message de Dieu. C'est déjà pas mal d'être un prophète. Et Jésus se comporte exactement comme ça. Il va redéfinir la loi. C'est ce qu'ont fait les prophètes qui l'ont précédé. Par son enseignement, ses signes, ses fréquentations, sa proclamation n'est en rien un enseignement systématique. Bien au contraire, c'est une manière d'interpréter la loi en fonction de la vie. Il ne rend pas caduque, certes, certains rituels, mais surtout, il dit que la vie est plus forte que tout. La véritable fin, en fait, le seul commandement, c'est ce que nous dit Paul tout à l'heure dans ce que j'ai lu, eh bien, c'est l'amour. Et le seul commandement, c'est presque l'amour du prochain. Parce que quand on aime son prochain, eh bien, on répond à ce que Dieu nous demande et finalement, en quelque sorte, c'est comme si on aimait Dieu. De manière ultime, le message de Jésus peut se résumer ainsi. Adorer Dieu en vérité, c'est aimer son prochain. Il va le faire dans son discours, dans sa pratique. Et c'est ainsi qu'il interprète la loi. Et c'est ainsi aussi qu'il se comporte comme un prophète. Ça, c'est déjà quelque chose de très important. Mais il ne se comporte pas comme n'importe quel prophète. Il y a, et il faut entendre, le côté subversif de sa prédication. Ceux de l'Ancien Testament aussi ont une prédication subversive. Mais Jésus est en quelque sorte le premier des anticléricaux. Il dénonce avec virulence la religion. Il refuse toutes les doctrines de son époque. Et on peut entendre ça encore aujourd'hui, refuser et interroger notre religion, permettant désormais une critique systématique de toutes ces religions qui vont se replier sur leurs dogmes et qui sclérosent leurs institutions. Il va refuser tous les rites inutiles. Pourtant, on peut bien le voir et l'entendre, Jésus ne fait jamais cela par pure provocation. Il le fait parce qu'il connaît la valeur de l'être humain et il refuse de le voir dévalorisé. Son interprétation de la loi est toujours du côté de la vie. Les guérisons qu'il opère sont avant tout des actes qui amènent celui qui est guéri à retrouver sa dignité, à retrouver une place dans la société. Il fait cela non pas en son nom personnel, mais il fait cela au nom de Dieu. En cela, il est aussi également un prophète. Et comme l'Israël en a connu d'autres, il en adopte le ton, la dimension de scandale. Il a cela. Eh bien, si vous croyez cela déjà, moi je vais vous dire, c'est déjà très bien. Vous inquiétez pas. Si vous croyez déjà que Jésus est un grand prophète et que son message peut bouleverser votre vie, eh bien, Probablement, vous ne serez plus brûlé sur un bûcher. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne brûle plus personne sur les bûchers. Mais finalement, c'est déjà très bien. Je crois que tous ces dogmes nous ont enfermés et nous disent « faut croire ci, faut croire ça ». Eh bien déjà, Jésus, un prophète, qui nous appelle à aimer notre prochain, qui nous appelle du coup à nous aimer nous-mêmes aussi, c'est déjà un message extraordinaire et ça nous change notre vie. Si on croit cela et qu'on le met en pratique, eh bien je vous assure que cela vous relève. Et être relevé, qu'est-ce que c'est ? Être relevé, c'est déjà ressuscité. C'est le verbe pour dire la résurrection. En fait, le message du Christ, c'est déjà l'annonce et même la manière de vivre la résurrection aujourd'hui pour nous. Alors, Jésus, simple prophète, eh bien, c'est déjà pas mal du tout. Mais on peut aller en avant, un peu plus loin. Si vous n'y allez pas, c'est pas grave, hein, je vous l'ai dit. Mais si vous avez envie d'y aller, alors on peut se lancer dans l'aventure. Parce que Jésus nous invite à aimer et également à croire. Parce que, en fait, si on entend vraiment le message de Jésus, aimer et croire, c'est pratiquement la même chose. Il nous aime et il croit en nous. Il croit en nous et il nous invite à aimer. Il sait que nous en sommes capables, que nous sommes capables de bouleverser notre existence pour cela et que nous sommes capables ensemble, eh bien, pas à pas, de construire un monde un peu meilleur. C'est difficile, mais pourtant, c'est possible. Et puis, nous pouvons nous interroger, qui est-il pour moi ? C'est exactement la question qu'il pose à ses disciples. C'est intéressant parce que les disciples, ils commencent d'abord à dire, qui suis-je pour les gens ? Les gens, on ne sait pas trop qui c'est. Eh bien, Jean-Baptiste, Élie, un prophète. Mais Jésus dit, eh bien, voilà, très bien, je suis peut-être ça. En tout cas, il ne remet pas ça en cause, jamais. Mais surtout, il pose cette question et il n'y répond jamais. « Qui dites-vous que je suis ?» Il ne dit pas « je suis cela », encore que dans l'évangile de Jean, il y a beaucoup de « je suis », mais tellement qu'ils sont interprétés « je suis le chemin, la vérité, la vie, je suis le bon berger », et puis des « je suis » tout seul, nous invitant en effet à voir à travers ce « je suis » le caractère divin du Christ, puisque le « je suis », c'est vraiment, ça peut s'entendre en écho avec la révélation dans le buisson, de Dieu dans le buisson ardent. Mais en fait, Jésus voit bien qu'il y a plusieurs niveaux. Eh bien, peut-être qu'il faut passer par reconnaître en lui un prophète pour aller plus loin, ou peut-être pas. Mais en tout cas, tout le monde ne croit pas au même niveau. Et même dans nos vies, eh bien, il y a des moments où on croit à une chose, et puis des moments où on croit plus, et puis on s'interroge. Et d'ailleurs, il nous interroge, et c'est bien ça ce qui est important. Il nous interroge. À aucun moment, il est un gourou. C'est à nous de chercher la vérité, notre vérité, en lien avec une vérité qui nous dépasse, mais une vérité qui justement permet aux êtres humains de vivre ensemble. Pierre répond, tu es le Christ. Alors, d'ailleurs, suivant les évangiles, c'est pas tout à fait pareil, c'est ce que je vous disais. Hein. Tu es le Christ chez Marc, tu es le Christ, fils de Dieu, chez Matthieu, et tu es le Saint de Dieu chez Jean. On voit bien que là aussi, la christologie est un peu différente. Mais nous sommes appelés à, eh bien, nous interroger continuellement. Alors, l'essentiel peut-être est cela, chercher et trouver. Chercher dans nos vies qui il est et trouver comment répondre à son appel. Il ouvre en fait une voie chez nous à un autre que nous. C'est probablement là que se fait la reconnaissance. C'est pour ça qu'il demande le silence aux disciples après. Parce que si les disciples vont dire à tout le monde qui il est, eh bien les gens ne trouveront pas par eux-mêmes. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est que c'est notre relation à Jésus et à ce qu'il est, eh bien cela définit aussi qui nous sommes. Nous sommes des êtres humains avec une intelligence et c'est pour ça qu'il nous fait confiance et qu'il nous demande de chercher, éventuellement de trouver, mais de continuer encore et encore à chercher. Mais je vais vous dire quand même, parce que de temps en temps, il faut bien se mouiller un peu quand on est pasteur et pas rester, voilà, ce qu'il est pour moi. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être dans la même chose, même endroit que moi, chacun, voilà, pour moi, il est vraiment l'incarnation. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire en quelque sorte que j'ai une autre christologie. Il est Dieu qui s'est fait proche, Dieu qui s'est fait humain, Dieu qui me rejoint, dans mon humanité, un Dieu qui est avec moi, qui connaît ce que c'est que la vie, qui va se coltiner à la vie tout au long de sa vie et qui va terminer sur la croix. Et c'est là, c'est ça qui me touche, c'est ce Dieu qui est à mes côtés et qui connaît mes bonheurs et mes souffrances. Et je voudrais dire aussi, là où vraiment il y a une rupture totale avec les autres religions, c'est justement là, la croix. C'est là que la rupture se joue. La crucifixion, imaginez, impossible à concevoir, comme nous le dit l'apôtre Paul dans le passage que je vous ai lu, impossible à concevoir pour les Juifs, ni pour les Grecs, ni même pour la plupart des religions aujourd'hui, les musulmans aussi. Parce que la croix, c'est quoi ? C'est la mort la plus infamante, c'est l'humiliation complète. Alors aujourd'hui, on entend beaucoup parler de blasphème, mais le blasphème, il a été fait une fois pour toutes lorsqu'on a crucifié le Christ. C'est cela le blasphème total. Donc plus rien finalement ne peut atteindre son image ou l'image de Dieu. J'en suis persuadée. Si, une chose qui est celle-là, c'est blasphémer, eh bien, c'est ne pas aimer son prochain. C'est laisser son prochain dans la détresse. C'est ça le blasphème. C'est laisser crucifier son prochain. Parce que c'est cette mort la plus infamante qui nous dit que Dieu, justement, est tout autre. Il n'est pas ce Dieu lointain qui est juge. Non, il est un Dieu qui a aimé les siens jusqu'au bout et qui en est mort sur la croix. Alors, évidemment, il y a la résurrection. Et c'est aussi à la lumière de la résurrection que eh bien, nous pouvons voir la croix. Mais la résurrection, c'est aussi pour nous, pour moi, la résurrection du Christ qui s'est relevé pour nous montrer que malgré la mort, eh bien, la vie a un sens, malgré tout et contre tout. Et c'est cela auquel nous sommes appelés. Nous sommes appelés à être relevés, mais à aider les autres à se relever. Cette prédication de l'amour, de la justice, de la grâce, lorsque eh bien, nous pouvons l'étendre, la donner à tous ceux qui nous entourent, eh bien, c'est cela aussi qui permet la résurrection. Et à chaque fois que cette prédication est bafouée et rejetée, alors, eh bien, le Christ est de nouveau crucifié. Aujourd'hui, le Christ est ressuscité. Quand ce qu'il incarne, c'est-à-dire la confiance en soi, le refus de la résignation, la foi en l'avenir l'emporte sur tout ce qui nous brise, tout ce qui nous condamne, sur tout ce qui lentement nous tue. Seul compte pour le Christ. Le Dieu d'aujourd'hui, cet élan créateur qui sans cesse nous éveille et nous révèle et nous relève. Seul importe pour le Christ cette puissance de mobilisation qui nous met en marche vers plus de justice, plus de vérité, plus de beauté, plus de bonté. Seul et précieux, le courage, ce courage dont le Christ est l'emblème, ce courage de traverser toutes nos zones d'ombre, les ravins de la mort, avec cette certitude. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen.